Sébastien, bonsoir.
Bonsoir à tous. Une reconstitution et des aveux à la une ce soir. Jonathan Daval mime les coups sur sa femme Alexia et reconnaît qu'il a brûlé son corps. Les parents se disent soulagés d'avoir la vérité. Corinne Ollouin nous attend en Haute-Saône dès le début du journal. À quoi bon expliquer une œuvre d'art où le travail divise-t-il les hommes? Le bac philo pour les terminales, le français pour les premières. Sur fond de grève des enseignants contre la réforme. Au sommaire également ce soir, la guerre des candidats en marche pour la mairie de Paris, la mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, le petit morceau de Mars de Thomas Pesquet, les billets pour l'expo Léonard de Vinci au Louvre en vente dès demain. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, comment juger les enfants? Quelles sanctions? Quelle efficacité? Quelle protection aussi pour eux? On profite du projet de révision de l'ordonnance de 45 pour tout mettre sur le tapis, notamment cette fameuse irresponsabilité pénale avant 13 ans. Et ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000.
France Inter. Il a d'abord signalé la disparition de sa femme en octobre 2017, participé aux recherches en larmes avant d'avouer le meurtre 3 mois plus tard devant les doutes qui s'accumulaient ce matin. Retour à Grès-la-Ville pour Jonathan Daval entre Vesoul et Dijon, dans la maison où il vivait avec sa femme Alexia, puis dans le bois où son corps en partie calciné a été retrouvé. 7 heures de reconstitution. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Les parents d'Alexia sont là aussi et Jonathan Daval avoue tout.
Oui, rejouer les actes qu'il a commis sur les lieux mêmes où ils se sont passés en présence de la famille de son épouse. Voilà sans doute ce qu'il fallait pour que Jonathan Daval livre enfin les détails de cette nuit tragique. Pour la première fois, l'informaticien de 35 ans a reconnu des gestes compatibles avec les lésions retrouvées sur le corps d'Alexia. Étienne Manteau, le procureur de Besançon.
Il a expliqué qu'après être rentré de chez ses beaux-parents, un conflit était né dans le couple parce que son épouse souhaitait avoir un rapport sexuel puisqu'elle prenait à cette époque un traitement de stimulation de la fertilité et Monsieur Daval, nous dit-il, a refusé ce rapport sexuel et donc un conflit est né de ce désaccord qui est allé crescendo et il a remimé le geste qu'il aurait accompli ce soir-là en l'étranglant pendant environ 4 minutes de façon continue.
Jonathan Daval reconnaît aussi 5 à 10 coups de poing au visage de sa femme. Puis, dans le bois des Moulins, face aux supplications des parents d'Alexia, il avoue avoir tenté de mettre le feu au corps. Épuisés au terme de cette reconstitution marathon, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot sont infiniment soulagés.
Nous voulions la vérité, nous l'avons eue. C'est tout ce qui compte. Donc voilà, Alexia, elle va peut-être pouvoir reposer un peu en paix maintenant.
Nous a demandé pardon.
Bien qu'il ait justifié que c'était impardonnable.
Oui, voilà. Le principal pour l'instant, c'est d'avoir la vérité. Voilà. Le pardon, ça viendra un peu plus tard. Chaque chose en son temps.
Au vu de ces dernières déclarations, la juge d'instruction envisage une nouvelle expertise psychiatrique de Jonathan Daval. Ce sera le dernier acte de l'instruction.
Corinne Audouin en direct de Grès-la-Ville en Haute-Saône avec Laurent Lucas. Merci à tous les deux. D'après le procureur, le procès pourrait se tenir au deuxième semestre 2020. À la page justice, encore une enquête ouverte pour tentative d'assassinat dans les Yvelines. Après l'agression d'une des présidentes de la cour d'assises ce matin à son domicile par 2 hommes déguisés en livreurs, peut-être armés d'un lanceur de balles de défense et qui ont pris la fuite à moto. La magistrate blessée à la tête a été transportée à l'hôpital. Et puis le parquet qui demande le renvoi aux assises du suspect du meurtre de Sarah Halimi, en 2017, renvoie pour meurtre antisémite.
On respire un tout petit peu ce soir dans les chaumières.
Le bac est lancé et le stress peut être un tout petit peu contrôlé avant l'histoire géo demain. La philo ce matin pour un peu plus d'un demi-million de candidats. Le français pour 190 000 postulants au bac pro. Le français aussi cet après-midi pour les élèves de première. Ça a été mieux qu'ils ne le pensaient pour mon neveu Arthur. Alors que les enseignants étaient appelés à la grève, de la surveillance et d'autres appelés en renfort, de 5 à 30% de grévistes selon les établissements. Des grévistes venus protester contre la réforme de l'examen prévue en 2021, comme ici, devant le lycée Saint-Cernin de Toulouse. Stéphanie Glésis.
Les manifestants ont gentiment attendu que l'épreuve de philo se termine pour accueillir en chanson les candidats qui sortaient. Au lycée Saint-Cernin de Toulouse, ce sont les candidats littéraires qui planchaient. Le sujet de dissertation consacré au temps a fait un carton. Clara.
Est-il possible d'échapper au temps? J'ai présupposé que dans cette question, le temps était nous emprisonner donc, vu qu'on nous dit qu'il faut s'échapper du temps. Et ensuite, j'ai parlé de la mort qui, au final, est la peur qu'on a avec le temps.
Romy a eu le temps de peaufiner sa dissertation.
J'ai défini le temps d'abord comme tripartition et après le temps comme durée. J'ai aussi parlé des théories du temps, comment penser le présent, de façon stoïciste ou épicuriste, c'est-à-dire plus ou moins avec les désirs ou avec la réfutation des désirs. Je parle de l'importance du passé et de l'avenir et je fais une synthèse.
Quant à Nikita, il est conscient de vivre l'une des dernières années du bac traditionnel.
Je pense que le contrôle continu tout au long de l'année, la destruction du bac à la fin, c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai la chance encore aujourd'hui de pouvoir présenter un sujet sur le temps que quelqu'un de Paris 16e va présenter autant que moi et j'ai autant de chance d'avoir une meilleure note que lui.
Sur les murs du lycée, les enseignants avaient affiché leur propre sujet de dissertation. Le travail est-il l'unique moyen de réalisation personnelle ou la confiance peut-elle s'imposer par une loi ? Toulouse, Stéphanie Iglesias, France Inter.
Les épreuves durent toute la semaine. Résultat le 5 juillet, rattrapage jusqu'au 10. Pour la majorité, les résultats, ce sera au printemps prochain. Les élus du parti présidentiel se mettent en marche pour les municipales. Un premier groupe de 19 candidats investis aujourd'hui de Toulon à Pontarlier, d'Ivry-sur-Seine à Mayenne, avec l'objectif d'avoir 10 000 élus locaux à l'issue du scrutin et de donner le label LAREM à d'anciens socialistes, radicaux, UDI, voire LR, face à l'appel lancé hier par Marine Le Pen aux Républicains. Sans oublier le cas délicat de Paris. Bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Sébastien.
Le plus grand fauteuil de maire de France, maître hôte prétendant en marche, qui se déchire sur primaire ou pas pour contrer le favori Benjamin Griveaux.
À Paris, c'est la vitrine, vous le disiez, pour les états-majors. En 2001, le PS gagne dans la capitale et sauve les apparences alors qu'il recule dans plein d'autres villes, d'où l'importance du candidat désigné. Ce sera le 10 juillet après un grand oral devant la commission d'investiture. Trop tôt, disent 4 des 6 prétendants, parmi eux le député Hugues Ranson qui réclame un délai supplémentaire jusqu'en septembre.
Prenons le temps de l'échange. Entre une désignation partisane rapide d'un côté et les primaires d'un autre côté, il y a une autre voie qui est une voie médiane. Il n'y a évidemment aucune candidature naturelle, il n'y a aucune candidature imposée non plus, très simplement parce que les candidatures imposées n'ont jamais réussi dans l'histoire politique parisienne.
Hugues Ranson se souvient d'un certain Bertrand Delanoë, homme de l'ombre mais implanté que les militants PS avaient préféré à Jack Lang à l'époque. Du temps pour fédérer, c'est aussi ce que réclame l'ancien ministre Mounir Majoubi pour ne pas effrayer les anciens PS ou anciens LR qui voudraient s'associer. Du temps, il n'y en a plus, rétorque Benjamin Griveaux, sorti du gouvernement fin mars, et qui, depuis, ronge son frein.
C'est 2 mois de perdu face à la maire de Paris qui est en campagne depuis 1 an, pendant que nous continuerions à nous regarder le nombril. Je crois profondément que le mois de septembre et le mois d'octobre ne doivent pas être consacrés à des primaires contraires à nos statuts et qui font très ancien monde. Ça n'a mené qu'à des défaites et à des divisions.
Et puis lui, il insiste, il est prêt. Une armée de marcheurs et déjà 300 000 euros levés. Problème, personne n'apparaît assez fort aujourd'hui pour siffler la fin de la récré. L'arbitre est à l'Elysée et pour l'instant, il n'intervient pas. Pire, tout le monde essaie de le faire parler à son profit. La même cacophonie et les mêmes numéros de ventriloque menacent à Lyon, Marseille, Toulouse et Nice.
On va suivre ça, merci Yael Gauz. Et puisqu'on parle politique, revoici l'ancien patron des Républicains, toujours président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Il réclame un fonds régional d'assurance contre les calamités après les dégâts liés aux intempéries de samedi. Orage et grêle sur les vignes, noix, abricots, cerises et pêches. Le ministre de l'Agriculture promet que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré dans les 48 heures. Son groupe, Altice, est spécialisé dans les télécoms et les médias, mais Patrick Drahi est aussi collectionneur d'art. L'homme d'affaires s'offre la maison d'enchères Sotheby's pour 3 milliards 300 millions d'euros. Pas de réunion d'information sur le plan social aujourd'hui à Belfort. Des salariés de General Electric ont bloqué l'entrée de la salle où le rendez-vous devait avoir lieu. Une rencontre est prévue vendredi. Le groupe américain prévoit 1 millier de suppressions de postes en France, dont 800 dans l'unité de turbine à gaz de Belfort. Et puis, avis à vous, auditeurs d'Inter et des autres chaînes de Radio France. Vos radios préférées risquent d'être très perturbées demain toute la journée. Tous les syndicats de la Maison Ronde appellent à la grève pour protester contre le projet de la direction qui prévoit jusqu'à 10% de réduction d'effectifs.
Il est 19h09 sur France Inter. Sébastien, il était le premier président élu librement en Égypte.
Mohamed Morsi, élu en 2012 après les années Moubarak, renversé un an plus tard par l'armée. Il était en détention depuis et il est mort, Martin Roux, après un malaise au tribunal.
D'après la télévision d'État égyptienne, l'ex-président Mohamed Morsi s'est évanoui dans le box des accusés, victime d'un malaise alors qu'il venait d'être entendu par les juges. Il est mort peu de temps après. Il pourrait s'agir d'une crise cardiaque. En 2012, il avait été le premier et à ce jour le seul président démocratiquement élu en Égypte à la suite de la révolution et la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak. Mais son mandat n'a été qu'une courte parenthèse. Un an plus tard, en 2013, ce chef du parti des frères musulmans est renversé par l'armée, puis remplacé par son ministre de la Défense, le président toujours en place, Abdel Fattah al-Sissi. Emprisonné depuis sa destitution, il comparaissait de nouveau pour des accusations d'espionnage. Son parti, les Frères musulmans, a été interdit, inscrit sur la liste des organisations terroristes. Gravement affaibli par près de 6 ans d'emprisonnement, Mohamed Morsi ne bénéficiait pas d'un accès aux soins suffisant. Sa famille et ses soutiens réclamaient d'ailleurs depuis plusieurs mois de meilleurs traitements. Il y a plus d'un an, en mars 2018, un panel d'hommes politiques britanniques alertait sur ses conditions de détention et avertissait déjà qu'elles pouvaient conduire à une mort prématurée de l'ex-président. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
Une première condamnation d'un proche de l'ancien président Bouteflika en Algérie. 6 mois de prison pour l'ancien patron des patrons, largement bénéficiaire de contrats publics. Il avait sur lui 2 passeports illégaux dans le pays et des devises non déclarées. L'Iran maintient la pression sur son programme nucléaire. Ses réserves d'uranium enrichi seront au-dessus des limites de l'accord de Vienne dans 10 jours, conséquence du retrait des États-Unis de ce texte signé en 2015. Bonsoir Christian Chénault.
Bonsoir.
Trump a rétabli des sanctions contre Téhéran et Téhéran voudrait que les 5 autres pays signataires, dont la France, viennent à sa rescousse.
Oui, à la pression maximale des États-Unis, l'Iran répond par une tension maximale. La République islamique est aujourd'hui asphyxiée économiquement par les nouvelles sanctions américaines et ne peut pratiquement plus exporter une goutte de pétrole. La stratégie du bord du gouffre de Téhéran envoie un message aux Européens, notamment Paris, Londres et Berlin, tous 3 signataires de l'accord nucléaire. Les Iraniens disent en substance, cet accord peut encore être sauvé, mais vous devez nous aider à contourner l'embargo américain, sinon tout le monde subira les conséquences d'une crise qui se développe dangereusement dans le golfe Persique. Bref, les Iraniens font monter les enchères pour placer les Européens devant leurs responsabilités.
Et jusqu'où tout cela peut-il aller?
Écoutez, à ce stade, les Européens sont tétanisés devant l'Amérique de Trump et il n'est pas sûr qu'ils réagissent dans le sens souhaité par les Iraniens. D'ailleurs, le mécanisme commercial imaginé par l'Union Européenne, baptisé Instex, n'est toujours pas opérationnel 6 mois après son lancement officiel. Il faut donc s'attendre à une aggravation de la crise. L'Iran va continuer à dégrader l'accord nucléaire tout en se gardant bien d'en sortir complètement pour ne pas tomber dans le piège tendu par Donald Trump.
Emmanuel Macron appelle Téhéran à être patient et responsable et Israël réclame déjà des sanctions immédiates dès que le stock d'uranium enrichi passera au-dessus de la limite. En Allemagne, on a parlé ici du meurtre d'un élu local qui a choqué tout le pays. C'était au début du mois dans le centre de l'Allemagne. Un haut fonctionnaire territorial pro-migrant retrouvait une balle dans la tête chez lui. Eh bien, un suspect a été arrêté ce week-end. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Sébastien.
Et la piste de l'assassinat politique se précise.
Oui, les enquêteurs ont fouillé le passé de cet homme de 45 ans, Stéphane E, confondu par des traces d'ADN retrouvées sur les vêtements de la victime. Il est connu de la police pour avoir dans le passé milité au parti néo-nazi NPD et ses participations à différents rassemblements violents d'extrême droite, notamment le 1er mai 2009 dans des affrontements contre des syndicalistes. Il est arrêté puis condamné à une peine avec sursis. Dans son casier judiciaire aussi, une autre condamnation. Il n'avait que 20 ans et s'en était pris à un refuge pour demandeurs d'asile à l'aide d'une bombe artisanale posée sur une voiture. L'engin n'avait pas explosé. Les enquêteurs se basent sur cet activisme politique pour motiver le meurtre de Walter Lübcke. Cet élu régional chrétien-démocrate s'était fait des ennemis en soutenant publiquement la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière Angela Merkel en 2015. Un élu insulté, menacé à l'époque sur les réseaux sociaux et depuis l'annonce de sa mort, on a pu y lire des commentaires de satisfaction. Le principal suspect en garde à vue depuis hier matin n'aurait encore rien dit. Si le mobile devait être confirmé, Sébastien, il s'agirait du premier meurtre politique en Allemagne motivé par des idées radicales de droite depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ludovic Piétenu, merci, en direct de Berlin. La canicule en Inde, jusqu'à 45 degrés depuis plusieurs jours au Bihar, dans le nord du pays. 78 morts ces dernières 48 heures. Les chantiers extérieurs sont interdits de 11h à 16h.
Des avions, des drones, des fusées et une maquette au salon du Bourget.
Celle du futur avion de combat européen qui remplacera les Rafales et Eurofighter d'ici 2040, maquette dévoilée par Emmanuel Macron. Autre moment de cette première journée, une pierre de Mars, un morceau de météorite offert en cadeau à l'astronaute Thomas Pesquet, Sophie Becherel, un bout de celle qu'il avait emportée dans l'ISS.
Cette roche martienne de 5,6 grammes a été trouvée dans le Sahara en 2015 par un nomade. Un petit caillou noir brûlé par son entrée dans l'atmosphère, acheté ensuite par un collectionneur. Il a fini dans le laboratoire scientifique de Toulouse où travaille l'astrophysicien Sylvestre Maurice.
C'est l'histoire d'un petit caillou qui un jour a été éjecté de Mars. a fini par tourner autour du soleil et tomber sur la Terre. Et puis ce caillou, on l'a donné à Thomas, il l'a emporté dans ses bagages pour tourner avec lui dans la station spatiale. Il est revenu avec, fort heureusement. Et enfin, un petit morceau de cette météorite martienne repart sur Mars. Ça sera une des cibles de calibration sur le prochain rover de la NASA qu'on appelle Mars 2020. Et donc c'est une composition de croûte planétaire.
Cette pierre a donc été sciée en 3 morceaux. Celui qui servira à la science est de la même taille que celui offert à Thomas Pesquet. Et pour l'astronaute, c'est évidemment une météorite symbolique.
Elle m'a accompagné en fait, elle a vraiment décollé avec moi, elle s'est reposée avec moi, donc elle a subi les mêmes épreuves on va dire. Elle a volé dans ma couchette, accrochée au mur pendant 6 mois, j'avais extrêmement peur de la perdre. Petits objets comme ça, ça flotte et on les perd assez facilement. Donc oui, on a vécu pas mal d'aventures ensemble, ça crée des liens. Moi, j'aimerais bien l'emmener sur la Lune, évidemment.
Car après son séjour dans la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet espère participer à une mission dans la future station lunaire. Elle n'est pas encore construite, mais le petit poussé de l'espace en rêve déjà. Au Salon du Bourget, Sophie Bécherel, France Inter.
Elles aussi rêvent de décrocher une étoile, la première sur leur maillot bleu, les joueuses de Corinne Diacre qui disputent ce soir leur 3e match de poule pour la Coupe du Monde face au Nigeria. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Sébastien.
Cette arène dans un peu plus d'une heure et demie, et comme elles sont déjà qualifiées pour les 8e de finale, eh bien l'effectif devrait tourner, c'est ça ?
Oui, effectivement, Corinne Diacre va logiquement ménager certaines joueuses. Alors la sélectionneuse n'a évidemment pas dit combien de rotations elle va effectuer ce soir, mais on peut tabler sur 3-4 changements pour ce match face au Nigeria. En défense, sur le côté droit, notamment Marion Torrent pourrait céder sa place à Eve Périssé. C'est une défenseuse qui joue au Paris Saint-Germain. En défense centrale également du changement à attendre avec Grijenbok, qui a été très en vue depuis le début de cette Coupe du Monde, et qui pourrait être remplacé par Issatou Tunkara qui a 24 ans et qui joue actuellement à l'Atlético Madrid. Changement attendu également au milieu de terrain avec Elise Bussaglia, c'est la doyenne de cette équipe de France. Elle devrait être sur le banc et remplacée par Charlotte Bilbao, la joueuse du Paris FC. Et puis en attaque, Jenny Le Sommer qui est un peu fatiguée, qui est surtout sous la menace d'une suspension pour les 8e de finale en cas de nouveau carton jaune. Et bien Le Sommer sera suppléée ce soir soit par Delphine Cascarino, la lyonnaise, soit par la bordelaise Viviane Asseyi. En tout cas, ce soir, Sébastien, on va faire connaissance ici à Rennes avec de nouvelles bleues pour ce match France-Nigéria.
Rendez-vous donc à 21h. Merci Cédric Guillou. 2 disparitions à vous signaler, celle du comédien Maurice Benichou, 76 ans, surtout connu pour son rôle de propriétaire de la boîte à souvenirs dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et puis celle de la styliste et héritière américaine Gloria Vanderbilt. Elle avait 95 ans et elle était la mère du célèbre journaliste de CNN Anderson Cooper. On termine avec ce qui s'annonce comme l'une des expos de l'année, avec le trésor de Toutankhamon à la Villette, celle de Léonard de Vinci. Ce sera l'automne prochain au Louvre pour les 500 ans de la mort du peintre. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
L'entrée du musée parisien ne se fera que sur réservation et elles ouvrent demain, 4 mois avant.
Alors le Louvre se donne effectivement les moyens pour que ce rendez-vous avec Léonard de Vinci ne se transforme pas en galère. Et grâce à cette réservation obligatoire, normalement pas d'interminable file d'attente et dans l'expo, pas de bousculade. En tout cas, c'est la promesse de Vincent Pomarède, l'administrateur général du Louvre.
L'objectif, il est triple. D'abord, c'est répartir les visiteurs sur l'ensemble de la journée, l'ensemble de la semaine. Le deuxième objectif, c'est de limiter le temps d'attente à l'arrivée au Louvre et à l'entrée de l'exposition. Nous faisons tout pour garantir un temps d'attente inférieur à une demi-heure de toute façon. Les gens y ont réservé, c'est tout à fait normal qu'ils puissent rentrer le plus rapidement possible dans l'exposition. Et enfin, le troisième objectif, c'est d'arriver à mettre en place ce système pour que le confort de visite soit le meilleur possible. On sait que au-delà de 400 personnes en même temps dans les salles d'exposition permanentes, la visite devient difficile.
Et si vous n'avez pas un accès à Internet, réservation possible dans le réseau Fnac et également dans la plupart des supermarchés.
Et que verra-t-on dans l'exposition ?
Alors, beaucoup de dessins des archives et pour la première fois réunis, 10 à 12 toiles du maître qui n'en a officiellement signé que 15. Il y aura bien sûr les 5 chefs-d'œuvre du Louvre, dont la Joconde qui restera à sa place. Et grand suspense autour du Salvator Mundi, le Louvre attend désespérément la réponse du propriétaire du tableau le plus cher du monde. Enfin, on pourra même vivre un tête-à-tête très intime avec la Joconde grâce à une expérience de réalité virtuelle. Nos yeux iront au-delà de la vitre qui sépare Mona Lisa du monde.
L'exposition Léonard de Vinci, ce sera donc au Louvre à Paris à partir du 24 octobre.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup Sébastien Paour.